en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour à tous. Pendant trois jours, les 21, 22 et 23 octobre 2007, les académies européennes étaient invitées à l'Institut de France. Voici un aperçu des échanges effectués le lundi 22 octobre durant la séance de travail de l'après-midi. Après l'introduction introductive d'Hélène Carrère-Dancausse, secrétaire perpétuelle de l'Académie française et président de l'Institut de France, Dominique Meyer de l'Académie des sciences a présenté une synthèse des travaux proposés par chacune des académies invitées sur le thème « Mémoire, recherche et création ». Puis Michel Zinc, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, a proposé une courte conclusion. Écoutons donc pour commencer l'allocution introductive d'Hélène Carrère-Dancausse.
Cet après-midi, vous le savez, le thème de notre rencontre est « Mémoire, recherche et création ». Je dirais que c'est le développement de la réflexion sur le rôle, la place et le rôle des académies au XXIe siècle. Toutes les académies sont véritablement concernées par ces trois thèmes qui s'entrecroisent et qui, à mon avis, dans chaque académie, doivent se recouper, même si on a parfois l'impression que la science est plus tournée vers la recherche, mais je crois que ça n'est pas aussi simple que cela. Madame Dominique Meyer, mon confrère, car l'Académie française ne connaît que des confrères, à travailler, à réfléchir sur les rapports qui avaient été faits par vous tous, chers confrères, et elle va nous en présenter la synthèse avant le débat. Je la remercie et je vous remercie encore d'avoir accepté avec indulgence de ne pas critiquer le léger retard que notre séance a prise, mais nous avons du temps devant nous, heureusement, pour débattre. Merci infiniment. Madame Meyer, la parole est à vous.
Madame le secrétaire perpétuel, monsieur le chancelier, messieurs les présidents et secrétaires perpétuels, chers confrères européens, mesdames, messieurs. Écoutons d'abord François Jacob, prix Nobel de physiologie et médecine, membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences. Il raconte comment est née l'une de ses grandes découvertes. Fin juillet 1958, un dimanche à Paris, je tourne en rond dans le bureau à remâcher de vagues hypothèses, de possibles expériences. En fin d'après-midi, lassés, fatigués, nous décidons d'aller au cinéma. Film sans grand intérêt. Affalé dans mon fauteuil, je perçois confusément en moi des associations qui continuent à se former, des idées à cheminer. Tout un remue-ménage qui se poursuit sourdement, dont je ne songe pas même à maîtriser le déroulement. Sur l'écran, des ombres s'agitent. Je ferme les yeux, attentif à ce qui se passe d'extraordinaire en moi. Une brusque excitation mêlée d'un plaisir confus m'envahit. M'isole de la salle, de mes voisins les yeux rivés à l'écran. Et soudain, un éclair, l'éblouissement de l'évidence. Plus loin, où peut donc agir le répresseur pour tout arrêter d'un coup ? La seule réponse simple, la seule qui ne fasse pas intervenir une cascade d'hypothèses compliquées, c'est sur l'ADN lui-même. Des hypothèses encore grossières, encore mal esquissées, mal formulées se bousculent en moi. À peine ont-elles émergé que je me sens envahie par une joie intense, un plaisir sauvage, une impression de force aussi, de puissance, comme si j'avais gravi une montagne, atteint un sommet d'où je découvrais au loin un immense paysage qui s'offrait. Je ne me sens plus ni médiocre, ni même mortel. Je manque d'air, j'ai besoin de marcher. Me saisit alors une sorte d'ivresse, un immense besoin de parler, de préciser mes idées en racontant ce qui m'agite. À qui parler ? Monod est parti en vacances, Wolf aussi, j'ignore où est Volman. Je reste seule avec mon rêve rentré. Fin de citation. Chers confrères, vos académies et l'Institut de France vivent pour offrir à chacun le souvenir et l'actualité des arts, des lettres et des sciences, c'est-à-dire de nos cultures qui se sont mutuellement fécondées à travers les siècles sur le sol de l'Europe, cette Europe où est née une vision universelle de l'homme. Vous avez été conviés par le chancelier Gabriel de Breuil à jongler avec les mots mémoire, recherche et création, des mots dont les nuances vont jalonner nos réflexions sur les académies. Je vous remercie chaleureusement de la portée de vos contributions et je vais tenter de confronter nos points de vue conçus dans l'unité d'une conscience européenne, mais dans la diversité de nos disciplines et de nos histoires. C'est probablement le mot « mémoire », art de conjuguer le souvenir et l'oubli, qui symbolise le mieux l'esprit des académies. Elles ont en effet pour mission de préserver et développer la mémoire du passé, mais aussi de créer aujourd'hui ce qui sera la mémoire de demain. La langue, trace de mémoire et témoin de vie, est sans doute le bien le plus précieux de toute nation, car par ses racines, par son évolution, elle représente le vrai trait d'union entre les générations. L'usage de ce trésor apparaît ainsi comme une création continue, invention de chacun de nous, de tous les instants, et si la défense de la langue est un devoir, elle peut aussi être un plaisir, celui de la maîtrise des constructions et des mots. Aimer une langue, n'est-ce pas aussi en goûter toutes les difficultés ? Bien qu'il soit commun aux diverses académies, le culte de la langue prend des formes différentes selon les pays, souvent en raison de considérations historiques ou politiques. L'Académie des sciences d'Albanie, par exemple, a récemment élaboré des travaux linguistiques et plusieurs dictionnaires afin de définir et de fixer les normes de la langue albanaise. Autre exemple, la Croatie, tout en rassemblant un matériel d'études des anciens écrivains croates, s'efforce, en corollaire de sa récente accession à l'indépendance, de développer une langue propre d'identité nationale. On peut imaginer que son individualité conduirait à l'acquisition d'une langue nouvelle en Europe. Comme l'Académie française, plusieurs académies ont, au cours des siècles, assis l'édification et la protection de leur langue sur l'élaboration de dictionnaires renommés. Je citerai en particulier l'Académie d'Athènes, l'Académie royale espagnole, l'Académie suédoise, l'Académie roumaine et bien entendu l'Academia della Crusca qui a conçu le plus ancien des dictionnaires européens, le célèbre Vocabolario. Au bord de la Seine, depuis le XVIIe siècle, l'Académie française façonne, enrichit, modernise notre langue en élaborant un dictionnaire qui définit l'état de celle-ci à un moment de son histoire et en est la référence. Création collective, réputée tour à tour austère et joyeuse, où les participants, attentifs à l'usage et aidés d'experts, confrontent avec passion leurs recherches et leurs expériences. Chaque rencontre est animée par le fameux ballet d'entrée et de sortie de mots, avec le départ de termes vieillis, puis l'accueil de jeunes prétendants. Ainsi, plus de 10 000 mots nouveaux seront admis entre les 8e et 9e éditions. La langue est bien un organisme vivant, les mots sont ses cellules et leur renouvellement constitue un obstacle à sa mort. Vos académies, l'Académie française, nous offrent, par la diversité des œuvres de leurs membres, une vision de chaque langue, de chaque culture, dans toute sa richesse et sa subtilité, sans que nous soit dévoilé le mystère de la création littéraire, cette transformation de la réalité intime mais partagée avec tant d'inconnus. Mais, comme vous le savez, chacune de nos langues est en danger, un danger d'autant plus grand qu'elle est utilisée par un petit nombre. Parmi les langues parlées actuellement dans le monde, seule, sans doute, la moitié vivra encore à la fin du XXIe siècle. Si, dans la plupart des domaines, chaque pays peut maintenir sans difficulté la prééminence de sa propre langue, c'est par contre dans les disciplines scientifiques et économiques que l'omniprésence de l'anglais crée malheureusement, pour beaucoup de chercheurs, l'obligation de publier dans cette langue. Nous devons cependant saluer les mathématiques qui, bénéficiant de leur réputation et d'un langage plus universel, parviennent, mais pour combien de temps, à échapper en partie à l'anglophonie. Par bonheur, certaines langues, on l'a vu pour le croate, continuent à s'individualiser, et l'on a même pu observer la résurrection de langues qui avaient plus ou moins longtemps cessé d'être parlées, en Cornouailles britanniques, par exemple. Face au risque d'une langue dominante, il est impératif pour nos académies de défendre dans le monde entier chacune de nos langues. Mais je voudrais d'abord, chers confrères européens, vous exprimer notre gratitude pour l'attention que vous portez au maintien de la langue française. À titre personnel, et vous l'avez montré dans vos contributions, ou dans plusieurs de vos domaines culturels. Je voudrais aussi rendre hommage aux nombreux professeurs, mousquetaires de la langue, comme les a appelés Hélène Carrère-Dancos, professeurs qui, à travers le monde, font vivre nos langues. Alors que celles-ci sont traitées avec respect, voire avec amour, hors de nos frontières, elles ne sont malheureusement pas toujours considérées avec autant d'égard dans nos propres pays. L'ignorance, l'indifférence ou la transgression conduisant au dédain de la grammaire, du vocabulaire et de l'orthographe. Confrontées à ces déviations, nos académies ont le même souci d'identité et de préservation linguistique. Beaucoup nous l'ont exprimé. Un autre devoir, plus altruiste, s'impose à chaque pays, celui de soutenir en son sein les autres langues parlées en Europe, afin d'entretenir une solidarité linguistique, instrument d'un pluralisme enrichissant pour tous et reflet de la parenté de nos langues. J'en veux pour exemple les rencontres organisées très récemment par l'Accademia della Crusca et consacrées à l'ensemble des 23 langues reconnues par l'Union européenne, langues représentant un patrimoine inestimable et commun à tous les peuples d'Europe. Dans le monde entier, une crainte a saisi tous ceux qui aiment éperdument les œuvres littéraires. Cette crainte, c'est la disparition, avec l'avènement d'Internet, du livre papier, de cet objet qu'on choisit, qu'on touche, qu'on quitte et qu'on retrouve au gré de ses désirs. Devant cette éventualité, les académies, toutes nos académies, sont dans une position ambiguë. Elles voudraient résister à l'empire informatique, mais savent qu'elles ne peuvent pas en écarter les avantages. C'est pourquoi, de plus en plus, les travaux académiques, les dictionnaires par exemple, envahissent la toile, permettant au plus grand nombre, progrès incontestable, d'accéder à un savoir qu'ils n'auraient jamais pu atteindre. Il existe aussi un autre langage, universel et sans langue celui-ci, qui s'appelle le cinéma. Il est symbolique que le président de l'Académie des Beaux-Arts françaises soit cette année un cinéaste, Pierre Schoendoerffer, et c'est à l'art cinématographique, source de tant de rêves, qu'il me semble heureux de rendre hommage aujourd'hui en m'inspirant de vos contributions. Le cinéma, populaire, subversif et de création collective, avait à l'origine beaucoup de raisons de ne pas être reçu comme un art, et Jean Renoir comparera un jour avec envie l'inévitable pesanteur technique entourant ses réalisations à la merveilleuse légèreté d'une touche de couleur née du pinceau de son père. Il fallut donc l'avènement de films d'inspiration et de recherche esthétique exceptionnelles, comme ceux de Griffiths, Eisenstein, Dreyer ou Gans, pour que soit reconnu un véritable langage cinématographique et affirmer l'idée d'un septième art. Le cinéma n'était plus un simple moyen de reproduction du mouvement, il devenait un nouveau moyen d'expression par la magie du découpage en plans. Les académies de divers pays européens ont, sans hâte, admis l'importance culturelle et artistique de cette discipline. Il en fut ainsi notamment des académies belges, espagnoles, polonaises et françaises. C'est en 1962 que René Clair fut reçu à l'Académie française. Ce montreur d'ombre, il se nommait ainsi, avait connu la gloire dès son deuxième film, Entr'acte, une fantaisie iconoclaste que jouait entre autres Marcel Duchamp. Nous retrouvons ce dernier dans la contribution du baron Robert Jones, associé étranger représentant l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Il rêve d'exposer dans un musée une nouvelle bicyclette, rouge et or cette fois, ready-made rival de celui de Marcel Duchamp en 1913. Il en imagine un nouvel effet de surprise, mais dont il souligne la brièveté, signe de l'éphémère de notre temps. L'Académie des beaux-arts française a, en 1978, accueilli comme associé étranger un autre surréaliste, cinéaste espagnol génialement provocateur, à vrai dire plus peintre que cinéaste. Du chien andalou à Walt Disney, il nous a tour à tour séduit et choqué, le summum ayant été l'éloge de sa vénérée garde Perpignan lors de son discours de réception. Vous avez tous reconnu Salvador Dali. Un peu plus tard, Marcel Carné y a été élu à son tour, mais ce n'est qu'en 1958 qu'est fondée la section des créations artistiques dans le cinéma et l'audiovisuel. Aux antipodes de la création individuelle de l'écrivain ou du peintre, d'une solitude et d'une liberté souvent si angoissantes, se situe la création collective, en l'occurrence celle du cinéaste. Comme toute création partagée, elle suppose une communion et une multitude de rapports et d'intercompréhensions impliquant, nous disent les neurobiologistes, une activité particulière du cerveau préfrontal. Les avis de tous sont sollicités, certaines scènes ajoutées, le dialogue modifié, chacun prenant sa part dans la création. Un bel exemple de cette symphonie est offert par Les Enfants du Paradis, rencontre mémorable entre la poésie et le cinéma, où l'on ne sait pas, ne cherchons pas à le savoir, qui de Carné, de Prévert, d'Arletty ou de Barrault a fait le plus pour le succès de l'œuvre. Comme un présage, ce film, traduit en 18 langues, enchanta un adolescent de Cracovie, et ce sera lui, Roman Polanski, qui, plus tard, succédera à Marcel Carné et lui rendra hommage sous la coupole. Plusieurs autres cinéastes ont été élus à l'Académie française ainsi qu'à l'Académie des Beaux-Arts. D'Orphée à Danton, de la Provence à l'Indochine, ils nous ont offert des interprétations extrêmement diverses du langage cinématographique. Parmi eux, je suis heureuse de saluer les noms de Federico Fellini et d'Andrei Vaida qui lui a succédé, illustrant les cinémas italiens et polonais, mais aussi la vie de l'Italie et de la Pologne, ils ont été élus associés étrangers. Alors qu'au XXe siècle, l'Europe se situait au cœur de la créativité cinématographique, comme on a pu le ressentir encore à la mort d'Ingmar Bergman, lui aussi accueilli par l'Académie des Beaux-Arts, le cinéma est menacé sur notre sol en ce début du XXIe siècle, en grande partie pour des raisons financières. Espérons que les créateurs européens sauront retrouver la première place et sauver le véritable art cinématographique qui nous procure tant d'émotions. Deux exemples remarquables nous en ont été offerts récemment par le couronnement des cinéastes Moon Jae et Henkel von Donnersmarck. J'ai plaisir à saluer ici les cinémas roumains et allemands. Après le cinéma, c'est la photographie qui symbolise l'ouverture des Académies des Beaux-Arts, souhaitée par certains d'entre vous. Je pense notamment à nos confrères de Belgique et de Russie, ainsi qu'au secrétaire perpétuel Arnaud Dautrive. Ce dernier rêve de voir dans son Académie des artistes inattendus, comme un maître verrier, un lissier ou même un créateur d'objets, je n'ose dire ici un designer. Ainsi, par leur relation intime avec notre vie, le cinéma et la photographie offrent à chacun de nous, et probablement plus qu'aucun autre art, un répertoire de souvenirs, une mémoire d'images dont on ne mesure pas assez la place dans la construction de nos représentations mentales. La mémoire nous poursuit, et sa physionomie est tout autre pour nos académies vouées à l'étude de textes anciens, en France, celle des inscriptions et belles-lettres. Leur objectif premier est d'entretenir et d'approfondir une forme de mémoire fondée sur une recherche historique, archéologique et philologique, ainsi que sur les découvertes qui en résultent. Dans ce domaine, plusieurs académies européennes nous invitent à un voyage à travers leurs sources de connaissances, leurs recherches, leurs concours à l'histoire. Une histoire qui, loin d'être seulement le récit d'événements, se veut une science des relations entre le temps et la vie des hommes en société. Vous comprendrez, chers confrères, que l'abondance des documents que vous avez évoqués m'est obligée à choisir parmi ces joyaux de l'érudition. L'Académie des sciences de Göttingen a le privilège de partager avec l'Académie de Berlin-Brandebourg un prestigieux travail éditorial concernant les écrits de Leibniz d'inestimable valeur pour la recherche. C'est également l'Académie de Göttingen qui conserve l'édition critique des Septante, célèbre traduction grecque de la Bible hébraïque, qui eut un grand retentissement littéraire et religieux. L'Académie bavaroise des sciences dispose d'inscriptions allemandes datant du Moyen-Âge et du début des temps modernes, ainsi que d'éditions des travaux de Kepler, mais également d'écrits d'hommes éminents comme von Schelling, Stifter et Max Weber. Ce sont d'autres textes médiévaux que l'Académie des sciences et des lettres de Pologne a recueillis. Ils sont l'un des éléments des nombreuses sources littéraires que cette Académie a publiées pour enrichir la mémoire de l'héritage polonais. L'Académie roumaine, pour sa part, a développé une grande collection de documents historiques, dits urmuzaki, ainsi que les éditions des œuvres de Dimitri Cantemir, remarquable érudit, dont les recherches ont approfondi l'origine latine des peuples roumains et leur rôle dans la défense de la civilisation européenne. En France, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, carrefour des arts, des lettres et des sciences, dirige de nombreuses recherches touchant tous les domaines qui relèvent de sa compétence, notamment la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, l'orientalisme, la linguistique. Rappelons tout d'abord que cette institution patronne à travers le monde plusieurs fouilles prestigieuses, sources de découvertes archéologiques continuelles. Ainsi, l'Académie, au centre de travaux vivants, loin d'être un simple conservatoire, se montre un authentique laboratoire de recherche. L'Académie participe d'autre part à différentes études scientifiques, en particulier à des corpus comme ceux des inscriptions sémitiques et des vases antiques, à une carte archéologique de la Gaule, une histoire littéraire de la France et un dictionnaire encyclopédique du bouddhisme dénommé Obogirin, né d'une collaboration franco-japonaise. Une autre source d'échange est l'organisation et la publication de colloques internationaux renommés dont j'aimerais vous donner trois exemples. Ceux de la Villa Kérilos à Beaulieu-sur-Mer, instituée par le secrétaire perpétuel Jean Leclan, réunissant les spécialistes les plus éminents de la mémoire méditerranéenne. Celui organisé par Michel Zinc, membre de l'Académie, est consacré à l'historien-poète Jean Froissart, à l'occasion du 6e centenaire de sa mort. Et celui concernant les trois frères Reynac, érudits français d'origine allemande, passionnément attachés à la Troisième République et au judaïsme, ils étaient déjà des Européens. À partir de l'ensemble de ces travaux, Michel Zinc rapproche l'enquête sur les documents anciens de l'investigation des biologistes sur le monde vivant, le terme de « découverte » lui semblant applicable dans les deux cas. Il considère d'autre part, contrairement à certains, que le fruit littéraire de travaux érudits mérite bien l'appellation de « création », élargissant alors ce concept. Ainsi fait-il de son domaine un parfait lieu de convergence entre la mémoire, la recherche et la création. C'est bien entendu à propos des sciences qu'a été le mieux analysée l'opposition entre créer et découvrir. Chers confrères, alors que nous avons jusqu'ici souligné les traits particuliers concernant la langue, les arts et les travaux érudits de nos différents pays, nous nous trouvons par contre avec les sciences dans un domaine sans frontières qui nous concerne tous. L'écrivain, le compositeur, le peintre, le sculpteur crée, tandis que l'homme de science découvre. Et si une œuvre littéraire, une œuvre d'art ne sont jamais dépassées, ne vieillissent pas, le destin d'une œuvre scientifique est au contraire d'être inévitablement débordée, plus ou moins vite, par les nouvelles recherches qu'elle a fait naître. C'est pourquoi, chacun le sait, l'artiste est unique, mais l'auteur d'une découverte, lui, remplaçable. Sans Pasteur, la génération spontanée est un jour réfutée. Sans Mozart, dit Zauberflöte, la flûte enchantée, n'est jamais écrite. Ou encore, dit René Thom, l'œuvre de science exige la copie, l'œuvre d'art refuse la copie. L'artiste, en effet, décrit un monde intérieur d'où naissent de pures constructions de l'esprit, alors que le scientifique oriente son esprit vers la description d'un monde extérieur qu'il lui appartient de révéler. Et pourtant, il existe des parentés entre créer et découvrir. En art comme en science, il faut chercher, tenter. D'un côté, essayer des rapports de couleurs, des thèmes harmoniques ou des associations de mots. De l'autre, tester tour à tour chacune des idées qui surgissent, chaque hypothèse, puis oublier ce qui échoue expérimentalement, accepter ce qui réussit, même en heurtant nos préjugés. Le début d'une recherche est ainsi toujours un saut dans l'inconnu, un passage de l'ordre vers l'aventure, comme l'est la naissance d'une œuvre d'art. Qu'il s'agisse de création ou de découverte, nous sommes donc en présence d'un choc, d'une rupture, mettant aux prises l'homme et son milieu, l'homme et son œuvre, l'homme et lui-même. Pour les psychanalystes qui nous surprendront toujours, c'est souvent d'une régression que naît la pensée novatrice. Dans ce combat intérieur fécond, l'irruption de l'idée géniale prend parfois un tour curieux. Goethe découvre un matin sur sa table un poème créé dans un moment d'inconscience, poème qu'il n'a aucun souvenir d'avoir écrit. C'est en montant dans une diligence, en pleine campagne normande, qu'Henri Poincaré, saisi d'une illumination, découvre que les transformations utilisées pour définir les fonctions fuchsiennes sont identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Ce mathématicien considérait que même dans son domaine, la démarche intuitive, fruit d'expériences antérieures, était seule capable de faire progresser les connaissances en permettant d'oser l'inconcevable. Ainsi, par la construction de nouvelles formes de pensée, le mathématicien apparaît véritablement comme un créateur et, par la beauté de ses démonstrations, peut être davantage comme un poète que comme un savant. Depuis peu, c'est aussi en véritable créateur que peuvent agir les biologistes par la voie de la substitution de gènes. Les plantes au génome modifié, les patients soumis à une thérapie génique, nous apprennent qu'il est devenu possible d'imiter la nature en créant des organismes vivants transformés par l'homme. Un pouvoir nouveau est né. Il est si révolutionnaire qu'il est à l'origine de conflits, surtout actuellement en ce qui concerne les plantes, conflits que les pays européens s'efforcent d'apaiser par une réglementation nuancée. Dans ces domaines très médiatisés, il serait dommage que la crainte du pire nous éloigne des bienfaits attendus. Et si l'idée de créer un organisme humain non plus par la reproduction, mais par le clonage fait horreur, la perspective de traiter un déficit biologique grave par l'utilisation de cellules souches ou le transfert de gènes ne peut que faire naître une espérance mêlée de respect pour les réticences éthiques, à vrai dire inégalement affirmées en Europe. C'est pourquoi nos académies réfléchissent à la destinée de ces techniques biologiques entre confiance, interrogation, perplexité et interdit, tandis que Bertrand Saint-Sernin, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, perçoit que notre place au sein du monde organique est en train de changer. D'autres débats scientifiques concernant la société sont aussi au premier plan des préoccupations de nos académies européennes. Je relève tout d'abord l'étude de la mémoire, impérative en raison du vieillissement de la population et du développement des maladies neurodégénératives. Ce défi justifie un acharnement pluridisciplinaire qui permet déjà, grâce aux techniques d'imagerie du cerveau, de voir celui-ci fonctionner sous nos yeux. Bien d'autres domaines d'actualité sont étudiés par nos académies scientifiques. Retenons, pour les dangers qu'ils font courir à la planète, l'appauvrissement en eau et les changements climatiques qui illustrent une fois encore l'importance de la recherche fondamentale. Afin de combattre le désintérêt grandissant des jeunes pour les études scientifiques, des actions de plusieurs ordres sont menées par nos académies. Certaines d'entre elles, on en a parlé ce matin, ont créé en leur sein un groupe de jeunes chercheurs, dits « jeunes académies » ou « jeunes curies ». C'est le cas des académies d'Amsterdam, de Berlin-Brandebourg, de Halle et de Vienne. De son côté, l'Académie royale des sciences d'Espagne s'est attachée à découvrir de très jeunes talents mathématiques et à guider leur épanouissement. Enfin, a été développé en France, sous l'impulsion de Georges Charpak, prix Nobel de physique, ainsi que de l'Académie des sciences, la main à la pâte, incitation des enfants à découvrir le plaisir d'observer et d'expérimenter le monde qu'ils côtoient. Ce programme est désormais partagé par beaucoup de pays, dont en Europe, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la Serbie, la Slovaquie et la Suisse. Je voudrais maintenant, dans la dernière partie de mon exposé, évoquer différents sujets communs à nos académies. De tout temps, les académies ont été partagées entre la sagesse de la maturité et l'attrait pour les jeunes talents, particulièrement vrai pour les mathématiciens. Comment ne pas songer à Évariste Galois qui, à 20 ans, quelques heures avant de mourir dans un duel, met la dernière main à ses célèbres recherches sur la théorie des groupes. Comment également ne pas rappeler que la plus ancienne Académie des sciences d'Europe, l'Academia dei Lincei, a été fondée en 1603 par un jeune prince romain de 18 ans, Federico Cesi, connu pour son célèbre « Il desiderio di sapere ». Par rapport à ces deux images de précocité qui nous émerveillent, l'effort actuel de rajeunissement de certaines de nos académies semble encore modeste, mais doit être salué. Une modestie qui concerne aussi la présence féminine dans nos académies. Certains rejets spectaculaires ayant marqué notre mémoire. Je pense naturellement à Marie Sklodowska-Curie, que l'Académie des sciences regrettera toujours de ne pas avoir accueilli, et je rends hommage à la Pologne où elle a connu ses premières émotions scientifiques. La chance d'avoir présent dans un même pays, dans une même ville, voire dans un même palais comme l'Institut de France, tant de talents différents, incite bien entendu à des rapprochements et à des chassés de croisées de connaissances entre les académies. Ces échanges peuvent être d'autant plus fructueux qu'ils concernent des disciplines distantes, ainsi que l'ont évoqué, entre autres, nos confrères d'Athènes, de Madrid, de Milan et de Vienne. C'est par exemple avec l'ambition de lier mémoire, art et technique qu'est née une véritable science du patrimoine fondée sur les apports de la chimie et de la physique à l'investigation des œuvres d'art et des documents du passé. Des pointes de flèches néolithiques aux architectures contemporaines, en passant par l'étude des écrits précieux, le champ est sans limite. J'aimerais maintenant, chers confrères, que nous nous posions une question. Existe-t-il, en ce début du XXIe siècle, une culture européenne ? L'idéal d'un tel édifice se heurte en effet à l'immense diversité des langues et des cultures individuelles sur notre sol, singularité qu'il est primordial de respecter, leurs enrichissements mutuels étant une condition de survie et de progrès pour chacune d'elles. Ce sont par conséquent, sans exception, toutes ces cultures, riches de leur mémoire et de leur raffinement, que nos académies doivent protéger afin de résister à la tentation illusoire d'une culture collective soumise en fait à la domination d'une langue. C'est en réalité, et c'est heureux, cette culture plurielle, sorte d'unité multiple, qui représente la véritable culture européenne et la marque de notre civilisation. En dépit de ces réserves, les académies multiplient les rapports individuels entre Européens, car elles ont perçu qu'une ébauche de culture commune se construirait beaucoup plus par des échanges entre les hommes autour de projets ou de recherches partagées que par des structures officielles plus ou moins rigides. En raison de leur universalité, ce sont les sciences qui se prêtent le mieux à ces liens. Mais les multiples contacts entre écrivains, la qualité des traductions, les rencontres d'artistes ou de spécialistes de textes anciens sont autant de traits d'union. C'est à l'Institut de France que la coopération culturelle européenne a été symboliquement honorée en mai 2005 par l'accueil des académiciens scientifiques représentant les 10 derniers pays admis dans l'Union européenne, et certains d'entre vous sont ici pour témoigner de cette rencontre. Les académies ont un curieux rapport avec le temps qu'elles ont le privilège de pouvoir ignorer en délaissant les fébrilités du présent. C'est en raison de cette longévité faite de mémoire, de tradition et d'adaptation que l'un de nos confrères de l'Académie suédoise les a comparés à de grands reptiles qui ont eu la chance de résister au climat depuis 75 millions d'années. Une longévité académique qui a permis de voir naître, au fil des siècles, des lieux de mémoire, c'est-à-dire non seulement des sites, mais aussi des objets ou des événements que les péripéties de l'histoire, la volonté des hommes, le travail du temps ont rendu symboliques d'une communauté. J'en veux pour exemple l'émotion que peut ressentir aujourd'hui notre communauté académique européenne en se souvenant que le 26 octobre 1885, Louis Pasteur annonça, dans la salle où nous sommes, le succès de son vaccin contre la rage. D'autres lieux de mémoire liés à l'Institut de France vous sont présentés depuis hier. Ils témoignent également de certaines pages de notre histoire. Parmi eux, je voudrais citer Chantilly, dont vous avez pu apprécier la splendeur, le passé prestigieux, et qui illustre l'aide qu'a pu apporter le mécénat à l'Institut de France grâce à l'action des chanceliers Pierre Messmer et Gabriel de Breuil. Chers confrères européens, vous avez, dans vos contributions, mis en lumière, dans leur diversité, les richesses de vos collections, de vos bibliothèques, de vos archives et l'importance de vos musées dans l'image culturelle de vos pays. Je ne peux, bien entendu, citer individuellement ces innombrables trésors si chers à vos peuples, qui représentent eux aussi des lieux de mémoire et de recherche, mais je voudrais rendre hommage à votre défense passionnée du patrimoine européen. En terminant, je souhaiterais souligner notre rôle face aux bouleversements culturels actuels liés à la fois à l'individualisme, à la révision des valeurs et aux progrès techniques. Qu'il soit permis, dans ce monde troublé, mouvant, de penser que nous sommes, académiciens de tous les pays d'Europe, par notre sérénité, par notre liberté, par la confiance qu'elles inspirent, les gardiens d'une certaine image de la vérité. Je vous remercie.
Nous venons d'écouter Dominique Meyer de l'Académie des sciences qui nous a présenté une synthèse des travaux proposés par chacune des académies européennes invitées à l'Institut de France mi-octobre sur le thème « Mémoire, recherche et création ». Après cette allocution, Michel Zinck de l'Académie des inscriptions et belles-lettres a proposé une courte conclusion. Alors, nous ne vous proposons malheureusement pas d'écouter cette courte conclusion dans cette émission, mais nous vous proposons de vous reporter à une autre émission sur ces colloques, ces rencontres des académies européennes. C'est sur notre site www.canalacademy.com. Également, une interview de Michel Zinck sur ces académies européennes sur notre site Canal Académie. Bonne journée.